Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec l'âtre royanné Jotulle Vaux-sur-Mer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Nos chroniques consacrées au patrimoine historique et naturel de la Charente-Maritime nous ont déjà conduit à plusieurs reprises au cœur de la forêt de la Coubre, dans la presqu'île d'Arvers, pour évoquer l'histoire et les richesses de ce massif forestier exceptionnel. Nous avons notamment évoqué l'école du pavillon, ou école de la forêt, où se rendaient les enfants des forestiers, des gardiens de phare, mais aussi des douaniers à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Nous sommes allés découvrir les ruines de la chapelle Notre-Dame de Buse, les vestiges de guerre enfouis dans la forêt, notamment la batterie Gironde, l'un des éléments défensifs les plus puissants du mur de l'Atlantique. Nous nous sommes promenés sur les traces du tramway forestier qui a fait les richesses du massif et qui reliait autrefois la Grande Côte à Saint-Palais-sur-Mer au Galon d'Or à Ronces-les-Bains. Nous avons aussi célébré deux sentinelles qui veillent sur la forêt depuis des décennies, le superbe phare de la Coubre et l'insolite tour du Gardour. Et en périphérie de forêt, nous avons également voyagé au cœur de la baie de Bonance, sur la commune des Mattes-la-Palmyre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un patrimoine singulier, atypique, le patrimoine bâti forestier. Nous partons visiter les maisons forestières de la Coubre. À leur manière, ces maisons nous racontent la genèse et l'histoire de la forêt. La plupart d'entre elles ont été construites sur des plans de Médéric Vasselot de Régnier, cet ingénieur des eaux et forêts visionnaire qui a joué un rôle majeur dans la politique de boisement tout le long du golfe de Gascogne, dans les Landes, mais aussi dans l'actuel département de la Charente-Maritime, sous Napoléon III. Rappelons que c'est à la suite d'un décret impérial datant de décembre 1810, sous Napoléon Ier cette fois, qu'il était prévu de fixer les dunes de l'Atlantique grâce à un vaste programme de plantation. Une première phase de travaux débutera en 1824, du côté de l'actuel phare de la Coubre, sous la baguette des ponts et chaussées. Puis ces travaux se poursuivront à partir des années 1860, cette fois sous l'égide des eaux et forêts, avec un vaste programme de plantation à l'échelle de tout le massif, pour mettre en œuvre la forêt que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est donc avec l'intensification des travaux forestiers, au cours de ces années 1860, que seront construites une dizaine de maisons forestières sur l'ensemble du massif de la Coubre, afin d'accueillir les ouvriers forestiers et leurs cadres. Je vous propose un rapide tour d'horizon de ces maisons forestières qui ont connu des destins divers. Deux de ces constructions, la maison forestière de Bonance, à proximité de la Palmyre, et la maison forestière des Brisquettes, en pleine forêt, sont encore habitées aujourd'hui par deux agents de l'Office national des forêts et leurs familles respectives. Été comme hiver, tels les gardiens d'un phare perdu au milieu de l'océan, ces deux agents de l'ONF sont les gardiens de ce magnifique temple de verdure. Située à proximité de la ligne pare-feu numéro 26, précision utile pour les habitués, la maison forestière de la Passe Blanche a été restaurée il y a quelques années dans le cadre d'un programme de préservation des chauves-souris. Pour la petite histoire, les chauves-souris ont dû trouver cette maison trop clinquante à leur goût, puisqu'elles l'ont quelque peu délaissée depuis les travaux. Des caméras positionnées sur place l'ont démontré. Un peu plus au nord se trouvait la maison forestière des Clones, récemment détruite, en raison notamment de la présence d'amiante. Toujours debout et bien préservée, la maison forestière de la Bouverie, située près du carrefour entre les départementales 25 et 268, est toujours utilisée pour des réunions de travail ou pour accueillir des ouvriers forestiers dans le cadre de la gestion de la forêt, mission première de l'ONF. C'est à proximité de cette maison forestière de la Bouverie que se trouvait autrefois la principale gare du tramway, située en pleine forêt. Rappelons que ce tramway a d'abord été hippomobile, puis à essence. C'est à la Bouverie que l'on trouvait des étables pour les chevaux, et les bœufs, bien sûr, d'où l'origine de ce nom. De nombreuses cartes postales, de la belle époque notamment, représentent la Bouverie au temps de sa splendeur, quand le tramway sifflait encore, si j'ose dire, à travers la forêt. En bordure nord-est de la forêt, citons aussi la maison forestière des Roseaux, tout près de la Tremblade. Au sud, la maison forestière de la Palmyre, située à quelques encablures du zoo. N'oublions pas dans cette petite liste la maison forestière de Nègrevaux, qui, hélas, est en train de s'effondrer, et qui accueillit autrefois des scouts, notamment un enfant du pays qui deviendra député-maire de la ville de Royan. Les projets ne manquent pas pour essayer de sauver cet édifice singulier, situé sur la ligne forestière numéro 21, à quelques mètres seulement de la piste cyclable Vélodyssée et d'une piste équestre. Si elle était restaurée, la maison forestière de Nègrevaux pourrait devenir à la belle saison un point d'accueil et d'orientation des randonneurs à vélo ou à cheval. Une note d'espoir et un dossier à suivre donc. Terminons ce tour d'horizon par un joyau du patrimoine bâti. Sans conteste, la plus belle maison forestière du massif de la Coubre, la maison forestière du Pavillon, à deux pas de sa voisine de la Bouverie. La maison forestière du pavillon a été récemment restaurée. Elle arbore sa façade blanche, tout en sobriété, ses volets peints en bleu, ainsi qu'une élégante frise de la même couleur. Et à l'étage, un petit balcon, en bois évidemment, offrant une magnifique vue sur la forêt. Un décor digne d'un conte de fées. Son architecture rappelle les maisons que l'on trouve en nombre dans les rues de Châtelaillon, qui font le charme de cette station balnéaire. Sur la façade de la maison forestière du pavillon figure l'année de son baptême, 1865. Cette maison forestière se trouve au centre d'un projet qui sera finalisé au printemps 2026. Intitulé Cœur de Coubre, piloté par l'ONF et diverses associations, en soutien avec les collectivités et plusieurs mécènes. Ce projet ambitieux prévoit la reconstruction de l'école du pavillon, ou école de la forêt donc, pour permettre l'accueil du public, en particulier des enfants des écoles de notre département, pour qu'ils puissent passer une journée en forêt, à la découverte de sa biodiversité remarquable. Cœur de Coubre, c'est aussi la renaissance du fameux jardin d'essai de la Coubre. C'est aussi à Médéric Vasselot-Drénier que l'on doit la création de ce jardin, à partir de 1866. C'est justement depuis la maison forestière du pavillon que l'on accède au jardin d'essai, en empruntant une magnifique allée, appelée Allée des Platanes, qui fait office de colonne vertébrale, desservant de nombreuses allées serpentant entre les îlots du jardin. En partie ravagée par la tempête de décembre 1999, le jardin d'essai est en cours de réhabilitation. Ces allées, qui avaient parfois disparu, dévorées par la végétation, ont été redessinées. Elles feront l'objet d'un entretien régulier par les agents de l'Office national des forêts. Dès l'origine, ce jardin avait une triple fonction. Scientifique d'abord, il s'agissait de tester les essences les plus à même de s'adapter au sol littoral, dunaire, sensible. Une fonction esthétique aussi, comme pour un arboretum. Et enfin, une fonction pédagogique. À ces enjeux que l'on retrouve aujourd'hui comme à l'époque de Napoléon III, s'ajoute un nouvel enjeu, de nouveaux défis liés au réchauffement climatique. Il s'agit désormais de réfléchir à la forêt de demain, aux essences capables de résister aux épisodes de forte chaleur, de stress hydrique. D'ores et déjà, plusieurs essences ont été replantées en guise de test, sur de petits îlots au cœur du jardin d'essai. Citons notamment le micocoulier de Provence ou le chêne-liège. D'autres seront plantés prochainement. En arpentant les allées du jardin d'essai, on trouve également d'autres essences, en petit nombre, qui ont survécu à la tempête de 99. Un cyprès de Lambert, un magnolia, un oranger des osages, des sapins d'Espagne, de magnifiques érables à feuilles d'aubier. D'ici au printemps 2026, des panneaux seront installés entre la maison forestière du pavillon et l'école éponyme, et sur les allées du jardin d'essai. Le visiteur pourra découvrir l'histoire, notamment géologique, de la presqu'île d'Arvers, qui fut autrefois rattachée à l'île d'Oléron. Approfondir ses connaissances sur la biodiversité de la forêt et sur les travaux des forestiers, se replonger à l'époque du fameux tramway et découvrir un patrimoine douloureux qui fait partie de la mémoire collective, les vestiges de guerre. Un jardin pédagogique sera créé derrière l'école de la forêt et une piste sera aménagée pour les personnes à mobilité réduite, pour leur permettre de découvrir l'ensemble du site. L'inauguration officielle de Cœur de Coubre sera un temps fort de l'année 2026. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement dans nos chroniques. Belle journée à tous.
C'était les chroniques du patrimoine sur Demoiselles avec Latre Royan et Jotul Vaux-sur-Mer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.